Alors, chers amis, pour la dernière séance avant la plage, si vous voulez, on ne présente pas la poste, mais on présente Nathalie, que je ne connais pas outre mesure, à part la proposition qu'elle a faite de venir nous exposer Florilettre. Certains d'entre vous sont peut-être abonnés à la lettre, Florilettre, et puis d'autres peut-être n'ont vu que le site tel qu'il apparaît. Je pense que Nathalie va nous expliquer l'ensemble des fonctionnalités et des activités, ainsi que l'historique.
Oui, mais je vais parler un tout petit peu de la poste, quand même. Je vais présenter le site de Florilettre dans le cadre, le site de la Fondation La Poste dans le cadre du mécénat de la Fondation. Alors, comment ça marche? Comme ça?
Il faut mieux approcher le micro. Vous penchez parce que je vais parler un peu plus fort.
C'est un micro?
Oui. Enfin, je vais juste. Ça va aller? Je vais juste présenter un tout petit peu la Fondation La Poste et dans quel cadre elle a été créée. Parce qu'elle a été créée en août 95, ça fait déjà. Mais ça fait exactement 10 ans. Donc, en ce qui concerne La Poste, enfin, au-delà de ses activités financières. La Poste a pour vocation et mission de transport, le transport d'informations et de colis. Donc c'est un système complexe et rodé de tri et d'acheminement, de liaisons matérielles et désormais immatérielles et numériques. Et elle s'est construite comme un réseau exhaustif. Donc si le contenu ne la concerne pas, la valeur de ce contenu lui confère néanmoins un statut à part. Elle est un service public. Elle est une institution présente dans la vie de chacun et elle est aussi objet légendaire et littéraire. Donc, consciente de ce rôle décisif, elle a développé une part de communication qui lui est spécifique et cette communication prend acte de la valeur des contenus. Donc, il s'agit du musée de la Poste d'une part et d'autre part de la fondation Entreprise La Poste qui a été créée donc il y a 10 ans, en août 95. Et elle a été créée dans le but de promouvoir l'écrit et de soutenir les projets culturels liés à l'écriture patrimoniale et contemporaine. Donc quand elle a été créée, elle soutenait à l'époque l'écriture théâtrale, la chanson française, et elle a aussi créer un fonds de correspondance. Mais pour des raisons de conservation, le projet a été abandonné et à l'heure actuelle, elle est le mécène de rencontres littéraires, d'ateliers d'écriture, de lecture spectacle qui valorise les échanges épistolaires dans le cadre de festivals littéraires et musicaux. Alors, le Festival de la Correspondance à Grignan, par exemple, le Festival de la Correspondance à Manosque, enfin, le Festival des Correspondances La Poste maintenant. S'appelle Correspondance La Poste à Manosque. Récemment, le festival le Marathon des mots à Toulouse et aussi des lectures spectacles qui ont lieu au Festival d'Aix-en-Provence, qui est un festival de musique classique, mais il y a aussi des lectures de correspondance de musiciens. Elle soutient également l'édition de correspondance, de carnets de voyageurs et d'explorateurs, les concours d'écriture épistolaire, les expositions qui mêlent peinture et correspondance, et elle est justement le principal partenaire du prix Béclair Fondation La Poste, qui chaque année couronne une fiction contemporaine. Et cette année, enfin en 2004, puisque ça se passe en novembre, François Bon a reçu le prix Béclair, donc éditeur Gon a apporté le livre. Donc voilà, c'est le prix Béclair Fondation La Poste est un des 10 prix littéraires reconnus en France. Il y a eu aussi Marcel Moreau l'année précédente et Yves Pagès et puis d'autres. Et donc, la Fondation La Poste s'est lancée sur Internet en 2000. Et c'était avec une idée simple, c'est-à-dire créer un site web dédié à la correspondance et diffuser par email une lettre d'information culturelle. Et donc, dès sa création, on a créé cette lettre d'information culturelle qui s'appelait à l'époque Correspondance, qui était bimensuelle, comme Florilettre à l'heure actuelle, mais qui avait une ligne éditoriale différente de celle de Florilettre. Florilettre, le nom existait déjà, puisqu'à l'époque, nous avions créé un service qui dépendait du site de la Fondation, peu de temps après avoir créé le site, qui permettait aux abonnés de recevoir une lettre par jour, du lundi au vendredi, puisée dans le patrimoine de la correspondance. Cette entreprise a duré une année. C'était assez compliqué parce qu'il fallait demander évidemment les autorisations de droit de l'expéditeur, du destinataire. Il fallait annoter les lettres et ça durait, c'était quand même chaque jour, donc il fallait s'y prendre un petit peu à l'avance. Et pendant une semaine, c'était sur un thème, alors lettres de peintre, lettres de musicien, lettres de guerre. Et donc quand on a abandonné correspondance pour certaines raisons, nous avons repris le nom de Florilettre et nous en avons fait la lettre d'information culturelle actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale différente puisqu'elle est articulée autour d'un ouvrage ou d'un événement sélectionné dans l'actualité éditoriale ou culturelle, et elle a pour axe principal l'interview de l'auteur. Elle est unique en son genre dans l'Internet puisque il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de revue équivalente sur la correspondance. Et puis elle a élargi aussi sa thématique à la littérature autobiographique, donc en plus de la correspondance, aux journaux intimes, aux mémoires, aux biographies, autobiographies. Donc je vous montre d'abord la lettre finalement, puisque contrairement aux autres sites, cette lettre d'information alimente le site et c'est pas le contraire. Donc je suis toute seule à faire ça. Donc je commence par la lettre d'information et ensuite avec les articles, les dernières parutions, je réactualise le site internet. Donc il y a un éditorial, un entretien. Là c'était le dernier numéro de Florilette avec Éditeur Go sur le colloque de Cerisy. Un portrait d'auteur, souvent un article critique, un agenda des activités culturelles ayant pour thème la correspondance, un agenda, donc les dernières parutions épistolaires et les actions de mécénat de la Fondation La Poste, et aussi pas mal d'illustrations. Je fais un peu défiler Florilette pour vous montrer. Voilà, donc il y a deux colonnes. Sur la gauche, vous avez l'éditorial, l'entretien. À droite, plutôt les documents. Les extraits choisis, aussi des extraits de lettres. Facsimilé, là, une photographie. Enfin, voilà. Un article critique. Et puis, à gauche, les dernières parutions qui ont un rapport avec la correspondance. Là, il y a le portrait de l'auteur, pardon. Et les dernières parutions à gauche et à droite, l'agenda. Donc cette lettre d'information, on la reçoit par email. Et elle existe donc depuis 2002, donc ça fait 3 ans. Elle s'est forgée depuis une réputation auprès des journalistes, des éditeurs, des écrivains, des institutions culturelles. Et elle dénombre aujourd'hui 64 900 abonnés en juillet 2005. Donc ce sont près de 60 000 emails qui sont estampillés Fondation La Poste et envoyés chaque mois, 2 fois par mois. L'abonnement à la revue Florilège se fait sur le web à partir du site de la Fondation La Poste. Donc ici, vous cliquez sur s'abonner à Florilège, c'est très simple. Il y a juste son mail à mettre, voilà. Et puis sur le site aussi portail du groupe La Poste, donc laposte.fr, et du site web mail de La Poste, laposte.net. Donc on peut voir, enfin, il y a un petit tableau que j'avais mis en avant, mais... enfin bref, c'est pas très grave. Enfin, il y a on peut voir l'évolution du nombre d'abonnés sur 2 ans. Je vais essayer de retrouver ce tableau. Voilà. Sur 2 ans, on voit une forte augmentation. Enfin, en décembre 2003, il y avait 5600 abonnés. Et début 2004, il y a une brusque augmentation du nombre d'abonnements. Donc, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Je pense à un effet de seuil lié à la notoriété acquise par le site. Et peut-être, enfin, ou peut-être les sujets. Là, j'ai mis quelques sujets abordés. À partir de 2004, il y a Philippe le Jeune, un journal à soi. Voilà. Lydia George, Diane Bienfou, les lettres de Diane Bienfou, Napoléon, le journal Tarkovsky. Voilà. Donc, d'abord diffusé auprès d'un public issu du milieu universitaire et de l'édition, Florilège comptait assez peu d'abonnés il y a 2 ans. Il est maintenant. Enfin, la plupart des abonnés sont ciblés et provenaient du milieu littéraire et des médias. Maintenant, il y a un assez grand public grâce aussi à l'abonnement à la poste.net. Donc, le rythme de croissance est de près de 3000 nouveaux inscrits chaque mois. Et ce résultat confirme le bon accueil réservé à la ligne éditoriale choisie et invite à poursuivre la voie de la qualité du contenu. Donc, en ce qui concerne le contenu, Florilège permet de découvrir ou de redécouvrir un auteur, d'entrer à chaque fois dans un univers différent avec une approche qui contente à la fois les universitaires, mais aussi tous ceux qui simplement aiment l'écriture et la lecture. Donc on a choisi la lettre, évidemment, puisque c'était La Poste, et qui est une forme littéraire, une expression de tous les quotidiens, qui est toujours un moyen fascinant d'entrer dans une intimité. Et aussi, la lecture et l'édition des correspondances revient à transgresser ce caractère d'intimité, à autoriser, à franchir les lettres d'autrui de leurs secrets. Donc la lettre prolonge le dialogue, la conversation, participe à l'éclaircissement de l'œuvre des écrivains, du travail intellectuel d'hommes célèbres ou d'acteurs de l'histoire. Et puis l'écriture épistolaire offre énormément une diversité thématique très riche. Par exemple, les lettres de musiciens, les lettres de peintres, les lettres d'écrivains, les lettres d'ailleurs, d'aveux, de rupture, les lettres de guerre. Et en plus de ça, de nouvelles correspondances d'auteurs sont éditées régulièrement. Les maisons d'édition éditent de plus en plus de correspondances. Et Florilège, évidemment, tous ces sujets dans cette actualité éditoriale. Alors, par exemple, la 62e édition, parce que nous en sommes... le colloque de Cerisy, c'était la 61e. Donc, la 62e édition de Florilège qui paraîtra fin août. Et sera consacré à la correspondance de Claude Debussy, qui sortira chez Gallimard en septembre. Donc, lettres de musiciens. Les florilettes ont été consacrées aux correspondances des peintres Balthus, Chessac, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Bruno Schultz, aux correspondances des écrivains Paul Éluard, les correspondances entre Jean Paulhan et Paul Éluard, entre Georges Hiberneau, Henri Calais, Georges Bataille et Michel Héris, et Jonathan Swift, il y en a eu beaucoup, et Paul Verlaine dernièrement. Et je vais vous montrer par exemple la Smile Art, c'est encore autre chose. celle de Paul Éluard et Jean Paulhan. Alors c'était avec une interview de un entretien avec Claude Pierre Pérez, je crois, qui vient à ce colloque, Schwab, ouais, que je ne rencontrerai pas. Donc ça c'est les éditions Claire Paulhan, il y a facsimilé de lettres, d'éditions, des photos, des extraits de lettres, il y a toujours des extraits de lettres avec l'autorisation des ayants droit. Portrait de Paul Éluard, portrait de Jean Paulhan. Bon, là il y avait un hommage à David Perloff, mais je vais en parler parce que c'est un cinéaste de l'écriture intime, c'est un cinéaste israélien qui a tourné pendant 10 ans de sa vie un journal intime de 73 à 83. Et bon, il est mort en décembre 2003, et ça correspondait à cette florilette, donc je lui ai rendu hommage. D'ailleurs, il y aura une rétrospective à Beaubourg en octobre prochain, si vous voulez venir. Donc ce format de florilette, c'est pas un site internet, c'est juste une page HTML conçue sur Dreamweaver et qui est envoyée aux abonnés. Donc pour revenir au contenu, par exemple, dans le cadre du Festival des correspondances à Manosque et de recueils collectifs publiés à cette occasion, il y a des numéros de florilettes qui ont paru sur les lettres de rupture avec une interview d'Yves Pagès, sur les lettres d'aveu avec une interview de Colette Fellous, qui fait régulièrement les carnets nomades à Manosque, sur les lettres de résistance avec Christophe Malavoie, sur le thème des lettres d'ailleurs, il y a eu notamment Lettres d'Égypte de Gaston Maspero avec une interview d'Elisabeth David, qui est égyptologue. Et puis la lettre est aussi présente dans les romans. Alors bien au-delà de l'espace occupé par le strict roman épistolaire, il y a Retour des amours perdus de Joshua Knaz. Retour des amours perdus de Joshua Knaz, je ne sais pas quelle est la... Ah ben c'est celui-ci, voilà. Donc là, la lettre est au cœur du récit et elle a aussi son importance dans la narration. Donc c'était un prétexte aussi pour parler littérature contemporaine, parce que je ne me tiens pas seulement aux correspondances d'auteurs. Et puis il y a eu aussi le complexe d'Oedipe de D.I.C.J., donc une interview avec lui à l'occasion de ce roman qui contenait aussi des lettres. La maison des feuilles de Danielewski, là c'était une interview avec Claro qui était le traducteur. Et je ne sais pas si vous connaissez ce roman, c'est un roman à tiroir incroyable. Donc là, interviewer le traducteur était presque plus intéressant, enfin, plus facile aussi, puisqu'il était en France, mais plus intéressant, puisque c'était un roman presque intraduisible. La couverture du soldat de Lydia Georges aux éditions Métellier a fait aussi l'objet d'une édition de florilettes. Donc d'autres sujets, comme par exemple les biographies, qui s'élaborent souvent à partir des correspondances et qui contiennent des lettres, sont également des sujets qui nous intéressent. Il y a eu la biographie de Laurent Greislamer, René Char, celle de Jean-Pierre Martin, Henri Michaud et Jean-Paul Kaufmann, Raymond Guérin. Donc c'était en 2003 et 2004. Donc, le journal intime aussi a fait l'objet de numéros de florilettes, de plusieurs numéros à l'occasion de nouvelles parutions. Par exemple, l'ouvrage de Philippe Lejeune et Catherine Bogert, Un journal à soi, qui montre la richesse, la variété, les spécificités de cette pratique. Donc aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes en France écrivent leur journal. Le livre présente une réflexion articulée autour d'une construction thématique et illustrée de beaucoup de documents, de plus de 170 documents, je crois. Donc Philippe et le jeune et Catherine Bogert restituent l'histoire du journal personnel, exposent les pratiques ordinaires au 19e et 20e siècle et analysent l'évolution du journal qui, à partir du 19e siècle, rejoint l'univers du web, du livre et aujourd'hui du web. d'autres numéros de Florilettres, sur le journal intime, avec la sortie du journal d'Andrei Tarkovski, qui était... ça c'est pas le bon, c'est parce que en fait il y a eu quelques, les ingénieurs sont en train aussi de travailler sur le site, donc je n'ai pas le Florilette en ligne. Voilà, André Tarkovski, donc c'est un numéro qui était pas mal illustré avec un entretien avec Charles-Henri de Brande, qui est le fondateur de l'Institut Tarkovski. Voilà, la filmographie, des images. Donc c'est une lettre d'information culturelle qui demande à être souvent imprimée, parce qu'il y a beaucoup à lire. Elle ne renvoie pas au site. Enfin, elle renvoie au site pour quelques liens, mais les articles sont à lire dans la lettre elle-même. Elle a le contenu. Elle publie le contenu entièrement. Il y avait aussi un autre numéro de Florilettes qui était intéressant à signaler, puisque c'était un récit fait à partir d'un journal. C'est le Faune de Gaël Obiegli. C'était aussi un prétexte d'interviewer un jeune auteur contemporain. Et puis dans la veine du journal, il y a les carnets de voyageurs et d'explorateurs avec les aventuriers du monde. Les mémoires de la mer, ce dernier sort en octobre prochain. Ce sont des ouvrages collectifs édités par l'Iconoclaste au Puy de Sivry et qui sont soutenus également par la Fondation La Poste et qui donnent à lire et à voir des lettres, des carnets, des facsimilés de documents, des journaux intimes, des photographies. Donc Florilette aborde des sujets, à travers la lettre, aborde des sujets divers. Elle est pluridisciplinaire, littérature, histoire, histoire de l'art, peinture, cinéma, musique et aussi société. Par exemple, le Mail Art, entretien avec Renaud Sigman, qui est historien d'art, je ne sais pas quel est le numéro de cette série. Qui a donné lieu aussi donc à c'était un livre et une exposition au musée de la Poste qui a donné lieu à cette florilettre que j'ai pas mal illustré aussi. Donc le mail art est à la fois une forme de communication originale, un espace de création interactif associé à différentes tendances de l'art moderne, mais aussi à un phénomène de société qui, avec les nouvelles technologies, est pratiquée aujourd'hui sous la forme d'un réseau planétaire qu'on appelle le Global Network ou le Netland. Et c'est un ensemble de plus de 100 000 correspondants qui s'échangent librement des missives créatives. Donc tout l'entretien parle du mail art et de ces missives créatives. Donc c'est soit par le biais de services postaux, soit par celui du réseau virtuel. Et puis il y a eu aussi un autre numéro, le numéro sur la correspondance et les enfants. C'était à propos de l'ouvrage La boîte à mots de Laurent Marty, qui est ethnologue, et qui rend compte de l'expérience d'une équipe qui a élaboré un échange de lettres très particulier. C'était dans le cadre de l'association La sauvegarde du Nord de l'enfance, le lieu expérimental et d'innovation dans le domaine de l'action vers les enfants en risque d'exclusion ou d'illettrisme. Et cette initiative dépasse quand même le cadre épistolaire, puisque les enfants qui ont entre 6 et 12 ans écrivent des lettres à des adultes. Les adultes répondent aux lettres, les adultes bénévoles répondent aux lettres, d'abord individuellement. Et puis les lettres sont ensuite lues avec d'autres répondants et elles sont ensuite adressées aux enfants. Donc pour les enfants, c'est une, la boîte à mots a son importance, elle lui donne l'idée qu'il a un rôle à jouer. Et comme dit Laurent Marty, c'est un lieu à tisser du lien et du sens. Ici, on construit la société. Et j'avais fait un numéro sur, grâce à une rencontre avec Laurent Marty, sur la boîte à mots. Et le numéro 28. Voilà. Une boîte à lettres pas comme les autres. Les enfants et la correspondance. Donc c'était une très jolie initiative et intéressante d'un point de vue épistolaire et sociétal. Bon, il y a aussi d'autres exemples. Il y a un autre exemple de sujet sociétal qui est une expérience d'écriture épistolaire à l'initiative de deux professeurs du collège Léon Blum de Villiers-le-Bel qui est dans le 95. Ce sont 47 élèves de 3e qui ont travaillé de concert à la réalisation d'un ouvrage qui s'appelle Lettres d'Oran, Lettres croisées Oran Villiers-le-Bel. Ils ont reconstitué une correspondance, ils ont créé une correspondance qui est tout à fait fictive entre deux adolescents ayant pour contexte la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est une expérience collective que j'ai voulu rendre compte aussi dans Florilège, qui permet aux élèves d'approfondir leurs connaissances et souvent de renouer avec les études parce que c'est un lycée un peu difficile. Et puis il y a d'autres sujets, il y a eu un sujet sur les marchands d'autographes avec une interview de Frédéric Castin dans sa galerie du Palais Royal et donc c'était pour montrer la profession, ce qui est être expert en autographe. Florilège peut aussi prendre le terme de correspondance dans son acception la plus large, c'est-à-dire entre deux expressions artistiques, c'est-à-dire intersémiotique des arts, donc les correspondances entre texte et image. Il y a eu un numéro sur Jean Tardieu et les arts, entretien avec Frédéric Martin Scherrer, qui était commissaire de l'exposition, entre texte et musique. Alors là, c'était assez élargi parce que c'était un entretien avec Dominica mais c'est parce qu'il a publié un livre chez Vertical, un livre collectif où 16, je crois 15 ou 16 auteurs se sont réunis pour écrire à partir de chaque titre de ses chansons. Donc c'était une correspondance entre écrivain et musicien. Et puis il y a un sujet de Florilège dont je voudrais vous parler, c'était sur l'exposition Bruno Schulz. Bruno Schulz était au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et là c'est la correspondance entre littérature et peinture du même auteur. Et puis son écriture est aussi écriture autobiographique. Un entretien était avec Serge Pochereau, historien d'art. Et le musée d'art et d'histoire du judaïsme m'a permis de publier toutes ces photos. Donc, c'était intitulé « La République des rêves », une exposition qui a proposé une réflexion, donc qui met en rapport l'œuvre picturale et littéraire de l'artiste et écrivain. Et puis, c'était ponctué par, peut-être vous l'avez vu, ponctué par des autoportraits, des photographies, des extraits de Boutique de Canel, écrit en 1934, et du Sanatorium au Croque-Mort, écrit en 1937, qui sont les deux principaux récits autobiographiques de Schulz. Et puis, l'exposition a présenté aussi l'intégralité des gravures du livre Idolâtre, et puis un certain nombre de lettres, je crois, on en a retrouvé 156. Donc c'était à la fois une mise en correspondance de deux créations artistiques d'un même auteur et des textes qui relèvent de l'écriture autobiographique ou épistolaire. Bon. Alors il y a deux cas de figure qui se présentent pour le choix des sujets, puisque je suis un peu seule à bord, mais j'ai quand même deux chroniqueuses. Et puis, je me réfère quand même... Pour la plupart du temps, ce qui est mis en avant, Florilège, ce qui est mis en avant sont les manifestations culturelles et les éditions qui sont soutenues par la Fondation La Poste. Donc là, Florilège devient un relais des activités de la Fondation. Bon, il y a eu la correspondance générale de Napoléon, les lettres des jésuites du Levant, les lettres de Dien Bien Phu, la correspondance d'Éric Satie, de Verlaine, de Victor Hugo, de Georges Sand, de Gaston Chessac, bon, prochainement de Claude Debussy, de Françoise Dolto, la correspondance professionnelle de Françoise Dolto en septembre-octobre, et puis les manifestations culturelles mécénées par la Fondation qui font l'objet aussi d'un numéro. Le privé de la Fondation La Poste, même si ce n'est pas de la correspondance, je fais quand même un numéro. Donc j'avais fait un numéro avec François Bon, justement, avec Marcel Moreau, avec Yves Pagès. Le Festival des correspondances de Manos, qui est un festival sur la correspondance, sur les littératures autobiographiques. Et puis il y a eu dernièrement une initiative de la Fondation La Poste pour parrainer des expositions qui mêlent peinture et correspondance. Donc il y a eu... j'avais fait un numéro sur Matisse et Rouvert, puisque il y a eu une exposition au musée de Luxembourg, Matisse, une seconde vie, où il y avait pas mal de correspondances de Matisse et d'André Rouvert. Et l'actualité éditoriale ou événementielle, bon, alors quand il n'y a pas d'actualité à la Fondation, je puise ailleurs et je reçois Livre Hebdo. Et puis les services de presse m'envoient leurs livres et je choisis de traiter plus particulièrement un texte en fonction de son intérêt documentaire, littéraire, historique, de mes goûts. Enfin, voilà. Et puis il y a les organisateurs de festivals, de spectacles, les commissaires d'exposition qui me préviennent également lorsque leurs manifestations correspondent à la ligne éditoriale du site ou de Florilettre. Et puis une simple rencontre avec un auteur peut donner lieu à un sujet. Donc... comme je disais tout à l'heure, il y a l'entretien. Donc l'entretien a une place importante dans Florilettre. Il est assez long, il se veut exhaustif, enrichissant. Et puis il est bien réécrit, il est quand même au plus près du discours de l'interviewé. Alors je le fais la plupart du temps face à face, j'enregistre. Dans certains cas, c'est fait par email, ce qui me donne moins de travail d'ailleurs. Voilà. Mais c'est plus intéressant en face à face quand même. Il y a les lettres ou extraits choisis qui invitent le lecteur à mieux connaître l'univers littéraire dont il est question. Voici les lettres. Là, c'est exactement comme pour les problèmes, enfin, pour les éditions papier, il faut absolument demander l'autorisation au destinataire, à l'expéditeur, aux ayants droit quand les gens ne sont plus là. La reproduction des images et des textes sont sur Internet. Normalement, c'est la même chose que sur papier. Les articles, il y a plusieurs formes d'articles. Ici, par exemple, dans ce numéro, il y a le portrait de Bruno Schulz par Corinne Amard. Donc là, c'est un article un peu plus long. Sinon, il y a aussi les dernières parutions. Donc, ce sont des chroniques faites par Elisabeth Miseau souvent. Là, c'est par Corinne, mais il n'y a plus que deux. Qui reprend les correspondances, les biographies, autobiographies, enfin, tout ce qui a un lien avec la correspondance, que ce soit dans le roman, la philosophie, jeunesse, oui, mémoire, etc. Dans le roman ou dans... bibliographie. Donc là, c'est juste un petit répertoire en fait des nouvelles parutions des 15 derniers jours ou du dernier mois. Et puis il y a l'agenda qui présente l'actualité de la correspondance à travers des expositions, du théâtre, exposition, théâtre, festival, concours. Là, il y avait un concours littéraire qui était parrainé par la Fondation La Poste aussi. Et puis, bon, sont mis en avant aussi tout ce qui est soutenu par la Fondation La Poste. Par exemple, le concours de Sévignal. Donc, en ce qui concerne les illustrations, grâce au soutien des maisons d'édition, des musées, des ayants droit, qui reconnaissent en Florilette un vecteur de communication privilégié sur le thème de la correspondance. Chaque numéro est quand même assez richement illustré. Et parfois de manuscrits inédits, de reproductions picturales et d'autographes. Et comme pour la reproduction des lettres, la plupart de ces illustrations sont autorisées à titre gracieux. Donc Florilettres est le site de la Fondation. Enfin, je ne vais pas vous faire une démonstration du site parce que mince, je l'ai perdu de toute façon. En fait, le site archive les articles de la Fondation, sauf peut-être ce qui a été écrit dans l'Observatoire de l'écriture. Là, il y a eu des... Voilà, tout ça, ce sont des articles originaux qui ont été écrits pour le site il y a déjà quelques années. C'était un an après sa création, même pas. Donc, il y avait, ça s'appelle Observatoire de l'écriture. Il y a Ted Nelson qui a... un texte de Pierre Delacoste sur Ted Nelson, le roman par mail par Anne Vauclair. On avait fait... Et bon, on manque un peu d'articles sur ce sujet. D'ailleurs, je fais un appel à contribution. Il y avait la correspondance électronique, voilà. Et puis des textes de Marc Pescola qui travaille aussi chez Fabula. Ouais, c'est gentil de venir.
Ouais, il reste plus que 5 minutes.
Ah bon, d'accord. Ben, je voulais aller lentement parce que je pensais que j'avais pas grand chose à dire.
C'est toujours comme ça.
Bon, ben voilà, enfin, j'ai fini.
Non, pas encore 5 minutes.
J'ai encore 5 minutes. Bon, qui lit Florilettres, plein de gens. En France, en Algérie, en Belgique, enfin dans les pays, soit des expatriés, soit des pays francophones. Il y a, parmi les lecteurs, il y a pas mal de monde, beaucoup d'écrivains, enfin Colette Filouz, il y a Claire Poulant, éditrice, enfin j'ai pas besoin de noter ça. Il y a beaucoup d'entreprises et d'institutions qui suivent les activités de Florilettres. Donc il y a une grande partie des maisons d'édition, pas mal de médias, les médias en ligne, les institutions, et puis les musées, les centres d'art. Donc c'est comme ça que je suis aussi au courant de pas mal de choses. Et puis, donc Florilettres a quand même acquis en 3 ans une certaine notoriété. Et puis le site internet aussi, mais on parle plus souvent de Florilettres que du site internet finalement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis le mois de juillet, Florilettres est le premier site du groupe La Poste à être accessible aux non-voyants. Il a été développé par des ingénieurs en PHP et Swip Agora. Et puis moi, je dois du coup m'adapter pour mettre en ligne les textes avec des templates, enfin des choses un peu différentes d'avant. Parce qu'avant, il a toujours été dynamique depuis le début, il a été développé sous ColdFusion, et ce qui était très pratique pour moi. Maintenant, bon, depuis juillet, il a changé. C'est pas très compliqué, mais il y a certaines choses qui sont à respecter, les règles à respecter pour qu'il continue à avoir le label d'argent qu'il a reçu. Par contre, son visuel et son ergonomie n'a pas été changé, et nous sommes en cours de modification, parce que du coup il est très bien pour les non-voyants, et pour les voyants il devient un peu moins joli. Alors on va le changer. Il y a des petites mains, il y a les titres qui sont trop gros. Donc ce premier travail de refonte de la base de données va être complété par une refonte de la charte graphique, parce qu'il a vieilli, il a quand même 5 ans. Et puis il est aussi question d'offrir la possibilité d'avoir des liens vidéo et audio pour enregistrer des lectures de lettres par exemple, ou des entretiens, donc création de nouvelles rubriques. Et aussi, à part ça, il est question d'offrir la possibilité de commander en ligne l'ouvrage sur Florilettres, là, qui fait l'objet d'un numéro. Par exemple, là, si on avait déjà mis ça en place, on aurait pu acheter inventaire. Le colloque, on peut l'acheter ici, mais on aurait pu aussi le commander. Voilà.
On n'aura pas les frais de port.
Voilà.
Et ça n'arrange pas la poste.
Ouais.
Oui, enfin là, c'était bon. C'était pour aider, au contraire, les maisons d'édition aussi, parce que ça serait juste un livre par Florilettres, donc ça serait pas mal. Enfin, surtout pour les petites maisons d'édition. Et voilà, pour conclure, ben, je pense que Florilettres a presque gagné son pari, c'est-à-dire devenir une revue littéraire d'origine postale reconnue qui valorise le patrimoine culturel de l'entreprise à travers le thème directeur de la correspondance, qui se décline aussi bien sur des sujets littéraires, culturels, technologiques que sociétaux. Et je pense que ces succès sont, bon, grâce à peut-être à la politique de mécénat décidée par la Fondation La Poste, peut-être parce que Florilette n'a pas d'équivalent sur Internet, peut-être aussi parce que le thème de la correspondance présente un intérêt de la part des lecteurs et des maisons d'édition qui en publient de plus en plus, peut-être parce qu'elle disparaît finalement. Donc plus on s'intéresse à un sujet, moins c'est... Enfin, ça veut dire qu'il est en péril. Et puis, une utilisation d'Internet comme espace de publication. Voilà. C'est vrai que là, je ne fais pas de démonstration très technique, mais parce qu'il n'y en a pas à faire, c'est vraiment un support.
On peut peut-être montrer le programme de Pontigny.
On peut montrer le programme de Pontigny.
Non, mais qui vous montrera le rôle de la correspondance. Il est juste dessous, là. Vous savez, le petite coutume.
Où ça?
Non, c'était en dessous, là. Vous aviez mis le rôle, mais c'est pas grave. On sait pas. C'était juste un voilà un peu encore. Voilà, encore. Alors, c'était non. Sur l'autre côté.
Ah, c'était...
Ah oui, c'était sur la lettre. C'était pas sur le...
Oui, c'était sur la lettre, pardon. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est là? Non, c'est pas celle-là. C'est-à-dire que je suis un peu... Je suis désolée, mais... En fait, autrefois, le... Ah oui, puis alors le projet aussi, évidemment, c'est d'archiver toutes les florilettes sur le site, puisqu'elles ne le sont plus. Avant, effectivement, on avait créé aussi un site florilettes.com qui archivait toutes les florilettes et qui recevait exactement... Enfin, qui archivait les florilettes exactement de la même façon... qu'on la recevait dans le mail. C'est-à-dire que parce que là, tous les articles sont dispatchés selon les rubriques. Donc on ne retrouve pas le numéro en entier. Il faut aller rechercher à chaque fois l'article. Tandis que dans florilette.com, on pouvait exactement retrouver Florilette tel qu'on le recevait dans le mail. Ça n'existe plus, la machine a planté il y a un an. Il y a un an, exactement. C'est toujours au mois d'août, il y a des problèmes. Et ça n'a pas été remis. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue de l'amélioration technique et visuelle du site, mais en ce qui concerne le contenu, c'est pas mal.
Merci. Bien, merci. Alors allons-y.
Jean-Claude. Pour répondre un peu à ma question, comment se procurer les 62 lettres quand on a un ministère?
Eh bien, il faut me demander.
Écrire à la webmastrice.
On peut les recevoir chez vous.
Je peux, oui, enfin, je fais des impressions chez moi, mais si vous voulez, je peux vous envoyer. Oui, au cas par cas, j'envoie. De toute façon, par exemple, j'envoie toujours une édition. Ben non, c'est Nathalie Ungermann. entreprise, mais sinon, de toute façon, j'envoie toujours le numéro, l'édition papier à l'interviewé, à la personne avec qui j'ai eu un entretien, enfin, pour lequel est consacrée l'édition. Si on me demande, ça m'arrivait de le faire pour des lecteurs qui m'ont demandé par mail. Parce que ici, dans le site, enfin, je vous ai très peu montré le site, mais parce qu'on peut aller le voir tout seul, hein, c'est pas la peine. Mais bon, enfin, en plus, ils ont tout mis à l'envers. Dans contact, ici, on peut aussi m'écrire. Je reçois ça chez moi. Vous envoyez un message, ça arrive directement sur mon adresse électronique.
Mais ma question, c'est pas pour moi, c'est le fait que je suis d'accord malheureusement avec toi, les gens s'écrivent de moins en moins de façon postale, les éditeurs sont en train de publier des lettres choisies de Flaubert, des Victor Hugo, je suppose qu'historiquement, la Poste, comme Fondation La Poste, comme bien d'autres sites sont condamnés à, pour l'intérêt de tous, à décider d'un système d'archivage, parce que c'est ça la conservation du patrimoine. C'est un peu dommage que tu te retrouves à passer du temps au cas par cas.
D'archivage des lettres, oui. enfin des lettres de florilettes.
Oui. Là, c'est quand même la poste, ça rien.
Oui.
Qui dit non, on n'est pas capable de vous envoyer les 62 lettres, les 62 florilettes, même si c'est un étudiant de DEA qui a envie d'étudier de l'épistolaire. C'est un peu dommage.
Oui, enfin. Ben, c'est-à-dire que à la Fondation, nous ne sommes pas très nombreux et je dirais même plus que nous sommes très peu.
C'est un refrain.
Je dirais même mieux. Nous ne sommes pas nombreux du tout.
Bien entendu que la Poste se dépeuple.
Et en fait, tout ce qui est Internet, ça se passe chez moi, rue des Martyrs, à Montmartre. Et bon, mais ça va s'améliorer. Je vais faire en sorte que ça s'améliore et qu'on retrouve toutes ces archives. J'ai demandé déjà à ce qu'on les retrouve. Mais là, en plus, on a été un peu ralenti par la mise en accessibilité du site, ce qui est très bien. Mais du coup, ça, moi, j'avais demandé ça en priorité et l'accessibilité du site s'est a devancé, enfin, est passé prioritaire en fait.
Là, tu vois, c'est quand même une forte demande
oui.
Que les lettres arrivent sous forme de lettres.
Oui, et puis on me le demande aussi, enfin sous forme de lettres postales.
Oui, oui.
Il n'y a pas de version postale.
Non, ça tout a été créé pour. C'est quand même l'internet littéraire.
Non, mais parce récupérable que ça a été sous forme de lettres, ouais. Mais en page web. Ouais.
Oui, parce que tout est original.
Là, je dis, bon, c'est morcelé, c'est. Voilà, bon, ce qu'il demande, c'est est-ce qu'on peut récupérer.
Et ça l'est sur le site, mais c'est réparti de façon.
Ça l'est dans sa boîte email quand on s'inscrit, mais oui. C'est vrai que pour récupérer les archives, il faut qu'on reconstitue. Dans florilette.com, il existait depuis la numéro 1 qui était sur Balthus.
Donc là, il y a un problème de structure, parce que vous auriez pu conserver les lettres. Telles quelles, et les renvoyer.
On les a conservés, c'est juste que la machine a planté. Il faut
on demande à quelqu'un qui les a reçus de les renvoyer à quelqu'un d'autre.
Moi, je les ai conservés.
On a des difficultés à les imprimer.
Mais sur le serveur, je. Oui.
Oui, passe en PDF, et puis on fait un nom, mais ça, sur un CD.
Enfin, il est aussi. On a aussi envisagé d'en faire quand même une publication papier. Peut-être d'une sélection d'entretiens ou de faire quelque chose sur papier.
Ouais, reprendre un livre.
Peut-être comme un almanach, quelque chose comme ça, avec une sélection de.
Il y a d'autres.
Parce qu'il y a de beaux entretiens quand même.
On peut envisager une publication sur le net.
Comment ?
Pardon ?
On peut envisager une publication sur le net.
Sur le net.
Ben, c'est sur le net.
Oui, mais les 62 lettres ont disparu. Les
archives.
Ouais.
Accéder aux archives.
Elles vont revenir. Hein. C'est juste une question de machine qui a planté et donc florilette.com n'existe plus. Mais sinon, tous les articles, on les a dans le site. Seulement, effectivement.
On n'a pas la totalité de
non. Et en plus, ça pose des problèmes avec cette histoire d'accessibilité du site. Parce
comment
que quand...
ils font les non-voyants pour voir
et, ils entendent. Ils entendent. Ils ont une voix. C'est une voix électronique. C'est oralisé. Donc tout est décrit. Alors maintenant, quand je dois rentrer une image, je dois expliquer ce qu'est l'image.
C'est une voix artificielle ?
C'est une voix électronique, oui.
On pourrait faire un essai le soir.
Ben non, parce que moi je suis voyante, donc je n'ai pas eu besoin du. Et c'est les non-voyants qui ont leur système.
C'est les non-voyants qui ont un système
Voilà, un synthétiseur. J'ai entendu parce que l'ingénieur m'a fait la démonstration quand il m'a montré.
C'est pas quelque chose qui est servi par le site.
Non, c'est pas.
Simplement, le site est balisé pour
le
répondre
extrêmement,
à cette technologie.
Voilà.
Ça nous donne des contraintes supplémentaires, c'est pas
mmh. Pour moi, oui, ça nous donne des contraintes.
D'accord, de balisage.
D'accord. Et puis, ça donne des contraintes aussi, justement, pour l'archivage de florilettes, parce qu'il va être archivé sur le site. Mais alors, on ne pourra pas mettre le contenu en entier parce que les titres ne doivent pas dépasser un certain nombre de caractères, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc maintenant, il y aura des liens. En fait, il y aura le sommaire du numéro de florilettes avec des liens qui vont renvoyer aux articles qui sont dispatchés dans le site. Mais moi j'aimerais bien qu'on continue, qu'on retrouve quand même, enfin qu'on remette en ligne les florilets tels qu'on les recevait. Mais ça ne sera pas, oui, voilà. Mais on va me reprocher que ça ne sera pas du tout accessible, parce que de toute façon je le fais sur Dreamweaver et que je ne sais pas.
Non, votre esprit c'est fait pour être lu à l'écran.
Oui, enfin, non.
Tu disais tout à l'heure qu'on peut imprimer.
On peut imprimer, oui. De toute façon, je pense que quelqu'un qui ouvre Florilette ne lit pas tout. Il lit par morceaux, ou le met de côté, il retient, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ou l'imprime, effectivement, et le lit dans le métro. Mais c'est trop long, et c'est vrai que, d'ailleurs, je... Moi, j'ai pas tout le temps d'imprimer, j'ai pas tout le temps d'imprimer avant de faire la diffusion pour la programmation par email, et je laisse des coquilles parce que je lis sur écran, donc c'est difficile de corriger très bien.
D'autres questions?
Je peux revenir sur cette question-là, mais je crois que c'est une question qu'on a tous rencontrée. Le web et l'hypertexte favorisent le texte bref.
Oui.
Or, dans ce que j'ai vu, vous écrivez de manière plutôt longue. Alors, je n'ai pas regardé dans le détail, mais j'avais vu quelques critiques. Vous écrivez de manière, je dirais, traditionnelle. Ça n'a rien de péjoratif chez un spécialiste de littérature, hein, vous en doutez. C'est-à-dire une écriture qui permet peut-être de développer une argumentation, de suivre un raisonnement, alors que le web privilégie plutôt le zapping entre des textes très courts liés entre eux. Donc je voudrais savoir si vous avez des réactions de lecteurs, par exemple, là-dessus, ou si vous avez dû transformer votre écriture, par exemple, pour mettre des accroches un peu plus brèves, qui permettent de renvoyer à des textes longs. Vous parliez de la possibilité d'imprimer sur papier, peut-être pour avoir une autre approche de cette lecture. Une éventuelle édition, sans doute, serait plus adaptée. Parce que c'est un problème qui se pose chaque fois qu'on veut passer du papier au web ou du web au papier, ce problème-là. Mais sans doute que Constance Krebs aussi a des choses à dire sur cette question.
Eh bien, j'ai plutôt des réactions positives.
Oui,
parce que
c'est un site qui est écrit.
Oui, parce que c'est différent de ce qu'on trouve sur le web.
Voilà.
Et puis parce qu'on n'est pas tout le temps obligé de cliquer pour retrouver un texte et qu'on a tout sous les yeux et on lit un peu comme une page de journal. Donc j'ai plutôt de très très bonnes réactions de la part des abonnés. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde lit d'un bout à l'autre, je pense pas.
Oui.
T'as pas écrit?
Non.
Alors ça, alors non, parce que le courriel sont deux supports.
Je pouvais accéder à tout, donc j'avais pas à me plaindre. Le problème de la radio dont on parlait ce matin, c'est qu'on ne pouvait pas y accéder. C'était autre chose. Mais ça a marché, tu vois.
Donc tu n'es pas frustré.
Mais répondre aussi à votre question, il est peut-être d'ailleurs envisagé de raccourcir Florilette et de mettre aussi plus de liens vers le site. Donc ça sera différent, je sais pas.
Moi j'ai une question très brève, j'ai peut-être eu un trou à un moment, mais j'ai pas entendu parler de romans par lettres, de romans épistolaires, dans l'ensemble des genres que tu as...
Ah oui, en fait, j'en ai parlé justement pour dire que j'en parlerai plus.
Ah bon.
Non, j'ai dit que au-delà du roman... épistolaire strictement défini, on parlait aussi du roman, de la lettre qui était dans le roman fiction. Donc je parle évidemment du roman épistolaire. Mais il n'y en a pas... en fait, comme je m'attache à l'actualité éditoriale, ça veut dire que je ne vais pas chercher un livre, un roman épistolaire qui est sorti il y a 10 ans. Je vais chercher dans les dernières parutions.
Au 18e siècle, par exemple.
Oui, mais alors il faut que ce soit une réédition. Il faut que ça fasse l'actualité.
Il y en a.
Ouais.
Il faut que ça rentre dans le quotidien.
Il faut que ça rentre. Voilà. Oui.
Jean-Claude.
J'ai vu les Sévignales.
Oui.
Alors c'est quoi?
C'est un concours d'écriture épistolaire qui est parrainé par la Fondation La Poste.
Organisé par Vitry?
Oui, je crois, oui. Vous connaissez?
Non, c'est parce que la pauvre marquise n'a pas su qu'elle est à l'origine de tout genre. Mais elle est coudante. m'attends à ce qu'un jour, je crois que c'est Roger Duchesne qui fait ça, un jour, il y a un nouveau livre qui explique pourquoi certaines lettres ne peuvent pas être d'elle, et d'autres sont d'elle, mais ne lui sont pas attribuées, etc. Et là, j'espère une petite chronique.
C'est pas Marc Escola qui parle de ça?
Oui, Marc Escola, oui.
Oui, bah, il a écrit dans mon site quand, au tout début.
Quand on a Marc Escola ou François Bon dans ses contributeurs, ça donne des lettres de noblesse à Florian.
Mais Marc Escola, oui, je l'ai fait contribuer dès le début, ben, dans l'esprit de la lettre d'ailleurs. Ben, merci en tout cas pour. Voilà, regarde. Marc Escola. Il y a deux articles, et puis on a. Enfin, grâce à Florilettre aussi, j'ai été contactée par le CNDP pour coordonner un numéro de TDC sur la correspondance. Donc j'avais demandé à Marc Escola de participer également. Et puis prochainement, en septembre, nous allons participer à un tournage, un documentaire sur la correspondance, Marc Escola et moi aussi, et moi-même, grâce à TDC, grâce à la fondation, au site de la fondation La Poste et à ce numéro sur la correspondance.
Qui est au conseil d'administration de la fondation La Poste?
Il y a
non, parce que c'est ouvert, c'est pas la Poste, c'est la fondation.
Mmh. Ouais. J'étais au conseil d'administration, mais
il y a
journaliste, et puis il y a une personne du musée de la Poste, je sais plus comment elle s'appelle, qui est adjoint aux expositions.
Est-ce qu'il y a un cabinet noir?
Est-ce qu'il y a
un cabinet noir comme à la Poste?
Mais la fondation est au siège de la Poste, c'est juste un bureau.
Mais écoutez, je vois que ça devient une conversation, donc on va peut-être s'interrompre.